Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h30 et je vous préviens tout de suite, Omblin a décidé ce matin de nous faire remonter le temps.
Ah oui, c'était le 3 juillet 1978.
Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il ? D'où vient-il ? Formidable robot des temps nouveaux.
Dans la toute première émission Récréa 2 diffusée sur Antenne 2, les jeunes Français découvraient un héros intergalactique. On le connaît tous, évidemment, Goldorak, piloté par le prince de l'espace Actarus. Alors, on n'était pas devant ce premier épisode, Julien,
non.
Mais comme nous, il a peut-être bercé une partie de votre jeunesse.
Goldorak est la première icône en France issue de la pop culture japonaise. Et bien, ce robot guerrier, vieux de 47 ans, a enfin droit à sa propre rétrospective à la Maison de la Culture du Japon à Paris. C'est jusqu'au 30 octobre.
Il y aura aussi une soirée événement au Grand Rex, une Retro Night le 28 octobre. Pourquoi Goldorak fascine-t-il toujours autant ? Pourquoi les Français sont-ils à ce point mordus de manga et de dessins animés japonais ? On sera avec le commissaire de l'exposition, Olivier Fallet, à 5h40. Une demi-heure plus tard, Julien, à 6h10, il sera question de salaire.
Oui, du salaire des quelques 5 millions de cadres que compte notre pays. A-t-il été impacté par la crise l'année passée ? C'est la question que s'est posée l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui a enquêté. Eh bien, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que malgré les difficultés des entreprises, les rémunérations ont été préservées. La mauvaise, c'est que les inégalités entre les femmes et les hommes se sont accrues, alors que l'écart entre les salaires avait tendance à se réduire ces dernières années. En clair, mesdames, vous avez été moins nombreuses à être augmentées que vos collègues masculins. Comment expliquer ce recul ? C'est la question que l'on posera à 6h10 au directeur général de l'APEC. Avant cela, à 6h15, notre chercheur de trésor gastronomique Olivier Pouls nous présentera l'une de ses trouvailles, un authentique beurre fermier au lait cru. Il paraît que cela va sublimer nos tartines. Et puis on écoute quoi, Omblin, aujourd'hui dans votre partition ?
Un album sorti il y a tout pile 51 ans.
Got a black magic woman.
Abraxas a installé Santana dans la légende du rock, un album enregistré pourtant dans la douleur, le récit à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. Excellent jeudi 23 septembre. On commence avec la météo. Et c'est avec Anissa Haddadi. Bonjour ma chère Anissa.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Le beau temps se poursuit.
Ah oui, c'est vrai, je vous avais promis 2 jours de très beau temps. Promesse tenue. La journée d'aujourd'hui va ressembler vraiment à celle d'hier. Alors ce matin, comme hier, on a encore pas mal de grisailles. Prudent, si vous nous écoutez en Bretagne, le long des côtes de la Manche ce matin, en Auvergne, en région Rhône-Alpes, en Alsace, en Occitanie, voilà, dans toutes ces régions, les brouillards sont nombreux, mais au fil des heures, le ciel va se dégager. On aura quelques petits nuages qui s'accrochent sur les côtes de la Manche. Mais enfin, il va faire très très beau. Et puis comme hier sur les Pyrénées, on a un ciel un petit peu plus couvert avec un risque d'orage en montagne. Alors la nuit, elle a été très étoilée, elle a été sympathique. Bon, vous vous dormiez donc vous ne l'avez pas vu, Julien et Omblin.
Bah non, on travaillait.
Mais du coup, quand le ciel est dégagé, la nuit est fraîche. On a 5 degrés à Épinal, 6 à 3. Il y a Pierre qui nous écrit sur Twitter avec le hashtag Europe 1 qui a relevé 8 degrés 2 à Ambérieu, 12 à Paris et 19 à Nice cet après-midi, exactement comme hier, 19 à 29 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Place à l'info avec votre premier journal. Il est 5 heures.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Simple comme un coup de fil, Joe Biden et Emmanuel Macron se sont expliqués hier au téléphone, une semaine après le début de la crise des sous-marins. L'heure est à l'apaisement, les deux présidents décident de lancer des consultations pour garantir la confiance. À Belfort, General Electric peut être bientôt en bleu-blanc-rouge. L'entreprise pourrait revendre ses activités nucléaires à EDF, 6 ans après le rachat de la branche énergie d'Alstom. Petite longueur d'avance pour Xavier Bertrand dans le sondage commandé par les Républicains. Le candidat à la présidentielle a reçu le soutien implicite de Nicolas Sarkozy en séance de dédicace hier à Lille. Et puis le PSG s'est encore fait peur hier soir en Ligue 1. Victoire in extremis face à Metz, la lanterne rouge. Le journal de 5 heures vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous. Ils se sont enfin parlé coup de fil hier entre Joe Biden et Emmanuel Macron après l'affaire des sous-marins. Objectif pour les deux présidents, rétablir la confiance. Un processus de consultation approfondie sera d'ailleurs lancé sur le sujet. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Ce coup de téléphone a été très longuement abordé hier lors du point presse de la Maison-Blanche.
Oui, pas moins de 7 questions posées à la porte-parole de la Maison-Blanche, sujet aussi important que la crise migratoire à la frontière mexicaine. Jen Psaki a donné quelques précisions sur l'ambiance de ce coup de téléphone. Ça a duré 30 minutes et c'était amical. Le président espère que c'est une étape vers un retour à la normale. Joe Biden a reconnu pendant cet appel qu'il y aurait pu y avoir davantage de discussions en amont. C'était pour lui un message important à faire passer. Alors pour Washington, c'est une manière de reconnaître une erreur, un faux pas, au moins dans la communication. Interrogé pour savoir s'il y a eu des excuses de la part de Joe Biden, la porte-parole a botté en touche sans répondre précisément. La Maison-Blanche a également envoyé une photo aux journalistes. On y voit Joe Biden tout sourire derrière le bureau ovale pendant sa conversation avec Emmanuel Macron. Signe que les États-Unis veulent aller de l'avant. Washington répète que la France est un partenaire essentiel, y compris dans l'Indo-Pacifique. Après cet exercice de communication, il faut maintenant réparer cette relation franco-américaine. Cela passe par le retour de l'ambassadeur français aux États-Unis la semaine prochaine et par une rencontre entre les deux présidents dès le mois prochain en Europe.
Merci Alexis Guilleux, correspondant européen aux États-Unis et aujourd'hui à l'ONU. Rencontre organisée entre Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et son homologue américain. En tant qu'industriel, nous ferons valoir tous nos droits, déclare dans le Figaro ce matin Pierre-Éric Pommelet. Après la rupture du contrat du siècle, le patron de Naval Group compte envoyer la facture à l'Australie d'ici quelques semaines.
6 ans après avoir racheté la branche énergie d'Alstom, General Electric pourrait déjà s'en séparer.
Et Cocorico revendre ses activités nucléaires à EDF. Les deux groupes en discutent. Et même s'ils jouent la prudence quant à l'issue de ces pourparlers, on peut dire, Lise Dangean, que le sujet est suivi de très près à la fois par l'exécutif et par les salariés de General Electric à Belfort.
Absolument, l'annonce a été immédiatement saluée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui parle d'une première étape positive. Selon lui, une telle opération répondrait pleinement à l'ambition industrielle de la France en faveur de cette filière. On est ici dans des logiques de souveraineté. Du côté des salariés aussi, on se réjouit, comme l'explique Philippe Petit-Collin, coordinateur CFE-CGC du groupe General Electric en France.
C'est clairement une lumière au bout du tunnel. Pour une fois, il y a peut-être un projet qui donnerait des perspectives d'avenir. Donc c'est un changement radical dans tout ce qu'on a pu vivre depuis 5 ans. Surtout l'opportunité de revenir sur un giron français avec des dirigeants en France sur un secteur stratégique pour la France qui est le nucléaire.
Seule réserve des salariés, la nature du projet industriel, pour quel marché, quel périmètre d'activité. Par ailleurs, l'État va-t-il suivre avec le lancement de nouveaux EPR? Certains s'inquiètent même de possibles conflits d'intérêts avec les contrats de Rosatom, le concurrent russe d'EDF par exemple.
Merci Élise Dangean.
2 rencontres en 3 jours entre Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand.
Oui, après avoir déjeuné ensemble lundi, l'ancien président de la République en dédicace à Lille, puis en déplacement à Calais, et le candidat à la présidentielle se sont croisés hier. Nicolas Sarkozy qui semble pencher en faveur de Xavier Bertrand.
J'ai beaucoup d'amitié pour Xavier depuis très longtemps. Il a été pour moi un très bon ministre, un ami qui était fidèle à des moments qui étaient difficiles. Nous avons des liens très anciens. Je dirai le moment venu ce que j'en pense. Je comprends que ça provoque beaucoup d'agitation. Voilà, il faut que vous compreniez que dans la vie politique, il y a des sentiments aussi, il y a des histoires. J'ai connu Xavier il y a bien longtemps. Xavier veut mener son ambition, je peux parfaitement le comprendre. Et je ne suis pas quelqu'un d'amer ou qui pense qu'après lui, il n'y a plus rien. Moi, j'admire les gens qui font de la politique. Après, la présidentielle, c'est la rencontre d'un destin, d'un homme, d'une femme, avec les Français. Et à lui de se faire entendre, ça ne dépend pas de ce que peuvent dire les uns ou les autres.
Des propos recueillis par Lionel Gougelot pour Europe 1. Xavier Bertrand qui est le mieux placé pour la présidentielle pour les sympathisants de la droite, selon une enquête IFOP commandée par les Républicains. Éric Zemmour porte plainte contre Voici et Paris Match. La une de Match ce matin, des photos volées du polémiste qui apparaît très proche de sa conseillère Sarah Knafo après une séance de dédicace lors d'une baignade. Le pass sanitaire finalement maintenu partout, mais le masque tombe à partir du 4 octobre pour les enfants dans les écoles primaires des départements où le taux d'incidence est inférieure à 50, annonce de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement hier à l'issue du Conseil des ministres. A noter aussi la suppression des jauges dans certains lieux recevant du public des mêmes départements. Les soignants, à l'origine de la circulation du QR code du pass sanitaire d'Emmanuel Macron, identifiés. Une saisine de leurs ordres professionnels est en cours, a fait savoir hier l'assurance maladie.
10e jour du procès des attentats du 13 novembre hier.
Et ce témoignage glaçant d'un héros, le premier policier de la BAC à être entré dans le Bataclan. Quelques minutes seulement après le début de la tuerie, il était avec l'un de ses collègues et, au péril de sa vie, a tué l'un des terroristes, Gladys Laffitte.
En un regard, le commissaire et son équipier se sont mis d'accord pour pousser les portes du Bataclan en pensant qu'on ne les franchirait pas dans le sens retour, acte d'emblée le policier à la barre. Mais il faut qu'on y aille. Avec pudeur et humilité, il décrit d'abord un tapis de corps et puis une voix, celle d'un terroriste qui menace un otage près de la Seine. Le fonctionnaire tire alors 4 coups. Le terroriste tombe et se fait exploser. Dans sa kalachnikov, une cartouche est chambrée. Le commissaire vient de sauver l'otage. Mais il est ensuite la cible de tir. Alors par réflexe, il dit adieu à ses proches. On allait mourir ce soir-là, c'était écrit. Pourtant, il sort et rentre plusieurs fois dans le Bataclan, sauve d'autres victimes qu'il tire de la fosse alors à découvert. Des personnes lourdes, car elles avaient baigné dans le sang, précise-t-il. Sous décor, un petit garçon de 5 ans, un casque anti-bruit sur les oreilles. Il est encore vivant aujourd'hui. Malgré ses vies sauvées, le commissaire exprime un remords, ne pas avoir pu extraire d'autres victimes. On n'avait que notre courage à opposer aux terroristes. On ne pouvait pas aller plus loin, regrette-t-il.
L'ancien chef de la BRI, Christophe Molmy, aussi entendu hier à la barre.
En Allemagne, dernière ligne droite avant les élections fédérales.
Et c'est toujours le suspense, course serrée entre les candidats du SPD et de la CDU. Ce dernier, Armin Laschet, était le dauphin naturel d'Angela Merkel avant d'enchaîner les bourdes pendant sa campagne, Hélène Kohl.
Les forces d'Armin Laschet sont devenues ses faiblesses. Dans sa ville d'Aix-la-Chapelle, la capitale de Charlemagne, dont il serait un lointain descendant, il a tissé des liens avec les Verts. Son ami écolo, Herman Pilgram, salue son travail quand il était ministre de l'Intégration.
Il s'est beaucoup engagé pour les immigrés. Il les a beaucoup encouragés avec des aides ciblées et contre les résistances de son propre électorat.
Mais à force de vouloir parler avec tout le monde, Armin Laschet a perdu en crédibilité. Pendant la crise sanitaire, il a sans cesse changé de cap dans son land de Rhénanie et contredit la chancelière dont il est pourtant un fidèle. Mais c'est surtout sa légèreté face aux inondations de mi-juillet dans l'ouest de l'Allemagne qui a entaché sa réputation. Pour ce défenseur du charbon, le drame qui a fait près de 200 morts ne justifie pas qu'on change la politique. Petite phrase désastreuse prononcée quelques heures après avoir été vu en train de rire dans un village endeuillé. Depuis, il a perdu 17 points dans les sondages. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et pour le soutenir, Angela Merkel lui rendra visite samedi chez lui à Aix-la-Chapelle à la veille du scrutin.
Il y avait du foot sur les pelouses de Ligue 1 hier soir, pas moins de 10 matchs pour la 7e journée.
Et retour sur Metz-PSG comme contre Lyon. Dimanche, les Parisiens ont arraché la victoire à la dernière minute grâce à un doublé d'Achraf Hakimi. Résultat 2-1, Cyril de la Morinerie. Encore une fois, Paris se fait peur. Mais là aussi, encore une fois, ça passe.
Oui, comme dimanche dernier, les Parisiens ont arraché la victoire dans les toutes dernières secondes. Les joueurs de la capitale ont profité d'un moment de confusion pour inscrire le but de la victoire. Après l'expulsion d'un joueur et de l'entraîneur messin, le Marocain Hakimi a surgi pour délivrer les siens. Le latéral droit, auteur d'un doublé, est le héros de la soirée. Mais face aux derniers de Ligue 1, on pouvait s'attendre à beaucoup mieux. Certes, Paris évoluait sans Messi et toujours en l'absence de Verratti, mais Mbappé, Neymar, Icardi et Di Maria faisaient partie du casting. Un PSG sur courant alternatif et brouillon, mais doté d'un gros mental, souligne l'entraîneur des Parisiens, Mauricio Pochettino.
On voit que l'équipe se bat jusqu'au bout. Elle a cette capacité à se surpasser. Je suis content de ça. L'équipe a montré du caractère. Un des objectifs désormais est de maintenir ce niveau et ce rythme pendant toute la partie.
Avec 7 points d'avance sur Marseille, son dauphin, Paris est confortablement installé en tête de la Ligue 1. Les Parisiens recevront Montpellier samedi prochain, dernière étape, avant la réception de Manchester City en Ligue des Champions la semaine prochaine.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban, on vous retrouve dans 5-6 minutes pour le rappel de l'info.
Il est 5h10 sur Europe 1, l'heure des courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 801 Amour As. Fautif peu après le départ, lors de sa dernière tentative le 3 septembre à Vincennes, alors qu'il était grandissime favori, mieux vaut le juger sur sa sortie précédente, toujours à Vincennes, le 25 août, où il s'était imposé avec la manière. Idéalement engagé de par les conditions de course, ce trotteur italien en retard de gain trouve ici une occasion idéale de rembourser ses nombreux supporters. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1, dans la 8e course, le numéro 1, Amour As.
Merci beaucoup Thierry Léger, et vous revenez dans une petite demi-heure pour les pronostics du Quintet. Très bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h11 et vous restez avec nous, s'il vous plaît, parce que le pressing arrive.
Ah bah oui, votre revue de presse décalée avec au menu ce matin un courrier royal, un footballeur pro de 60 ans et Météo France dans la tempête. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h12, passage obligé par le pressing, comme chaque matin, les articles à lire dans vos journaux. Et nous sommes rejoints par Martin Lange, bien sûr. Bonjour Martin.
Bonjour Obline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, on jette tout d'abord un œil sur les unes de vos journaux, de vos journaux principaux. La série qui dénonce la prostitution des ados, titre aujourd'hui en France. TF1 diffuse à partir de ce soir une fiction sur une jeune fille qui vend son corps. Un fléau qui n'a rien d'une fiction, puisque 7 à 10 000 mineurs en France seraient concernés. Le Figaro revient sur la crise des sous-marins. Le président de Naval Group rompt le silence, titre Le Quotidien qui publie un entretien exclusif de Pierre-Éric Pommelet. Ce dernier explique que le jour même de la rupture du contrat, il avait reçu quelques heures plus tôt le feu vert du gouvernement australien pour lancer une nouvelle phase du programme. Et puis peut-on débattre avec n'importe qui, se demande en une Libération, alors qu'Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon vont s'affronter ce soir à la télé. Voilà pour les unes, Omblin, à vous.
C'est une très jolie histoire racontée par L'Éclair, La Dépêche, un journal local de l'Oise. L'histoire de Noé, 7 ans, fan de la couronne britannique. Noé qui, vous l'imaginez bien...
Quelle horreur,
non mais ça va pas. Quoi.
Julien, la main sur le cœur. Noé, donc, a été particulièrement touché par la disparition du prince Philippe le 17 avril dernier. Il s'installe devant la télévision aux côtés de sa grand-mère pour assister aux obsèques royales. Et une image l'affecte particulièrement, voir la reine Elisabeth toute seule sur son banc de la chapelle Saint-Georges. Noé, le cœur serré, ressent le besoin de réconforter celle qui vient de perdre l'amour de sa vie. Dans sa toute jeune existence, Noé a déjà été confronté à un deuil, la perte de son grand-père. Alors il comprend la tristesse de la reine, il s'empare de son stylo quatre couleurs. Avec l'aide de sa grand-mère, il se met à rédiger quelques mots destinés à la reine d'Angleterre. Je vous les lis. Je suis Noé, un petit français, j'apprends l'anglais depuis la maternelle et je suis en CP. Je vous écris ma reine, car j'adore l'Angleterre. Je vous ai vu à la télé et je pense à vous. J'aimerais tant avoir de vos nouvelles. Je vous embrasse, reine Elisabeth II.
C'est mignon comme
tout. C'est beau, hein. Noé poste sa lettre, une lettre suivie d'ailleurs, pour pouvoir regarder le parcours de ce courrier. Et un petit peu plus de 3 mois plus tard, alors qu'il ne l'attendait plus, alors qu'il n'y croyait plus. Une réponse arrive dans la boîte aux lettres de sa grand-mère. Sur l'enveloppe figurent les armes de la famille royale d'Angleterre et à l'intérieur, un carton à l'entête de Buckingham Palace avec la photo du prince Philippe en noir et blanc et cette réponse très officielle de la reine qui remercie sincèrement le petit mot de sympathie envoyé après le décès de mon mari et c'est signé Elisabeth R. Aujourd'hui, le courrier est conservé comme un trésor dans une pochette plastique. Noé rêve de la rencontrer. On ne sait jamais, dit-il. Elle m'a bien répondu.
C'est une très jolie histoire. Que nous raconte donc quel journal ?
Ah, L'Éclair, La Dépêche, un journal local de l'Oise.
Merci beaucoup, Omblin. Martin ?
Alors, je vous emmène au Suriname ce matin, un petit pays d'Amérique du Sud, frontalier avec la Guyane française. Et je vous présente un homme aux multiples casquettes. Il s'appelle Ronnie Brunswick. Il a 60 ans, il est vice-président du pays, ancien guerriero. Il s'adonne aussi au trafic de drogue. Et à ses heures perdues...
Vous le dites, c'est un joli CV.
Et à ses heures perdues, il joue au foot. Mardi, les supporters surinamiens ont insisté à un drôle de match. Le vice-président à bedonnant, brassard de capitaine autour du bras qui dispute le 8e de finale aller de la Ligue de la CONCACAF, c'est l'équivalent de la Ligue Europa en Amérique centrale. Alors il a joué 54 minutes pour Moengotapoe, excusez-moi, club dont il est président, propriétaire et dont le stade porte son nom, rien que ça.
Ah oui.
Le monsieur est un petit peu mégalomane sur les bords.
L'ego va bien.
Alors si Brunswick se vante d'être devenu le joueur le plus âgé à disputer un match international, sa performance et celle de son équipe ne resteront pas dans les annales. Défaite 6-0 face aux Honduriens d'Olympia. Mais visiblement, la déculottée n'a pas beaucoup dérangé notre homme. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on le voit hilar dans le vestiaire de ses adversaires. Il semble même distribuer de l'argent. Alors, Brunswick n'aura pas la chance de jouer le match retour au Honduras. L'homme d'affaires présenté par le New York Times comme braqueur de banque, baron de l'or et père d'au moins 50 enfants ne quitte plus son pays depuis qu'il a été condamné à 8 ans de prison aux Pays-Bas. 10 en France pour trafic de drogue. Ancien militaire, hein, Brunswick a pris les armes dans les années 80 pour renverser le dictateur Bouterse. Il se fait alors appeler Robin des Bois et mène la révolte des Marrons, ses descendants d'esclaves venus d'Afrique. Il sera arrêté une première fois en 1990 pour trafic de drogue, car il finance sa rébellion en taxant les trafiquants qui passent sur son territoire. Il faut dire que le Suriname est une plaque tournante, hein, du trafic de cocaïne. 60% de la poudre blanche qui arrive en Europe transite par là. À sa sortie de prison, hein, Brunswick entame une carrière politique. Il devient d'abord député, puis vice-président depuis juillet 2020. Il n'est plus qu'à une marche du poste suprême, hein, et envisage de jouer pour l'équipe nationale s'il est élu. L'homme qui échappe plus facilement à Interpol que défenseur, c'est à retrouver sur l'équipe.fr.
50 enfants. Hein.
50 enfants. Alors, c'est la légende des 50 enfants. Je ne sais pas s'il les a tous reconnus.
Non, on ne les a pas tous comptés encore.
J'ai pas été vérifié.
C'est un homme productif, on va dire. Incroyable histoire. Merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un article à lire dans Aujourd'hui en France qui s'intéresse à un service essentiel et gratuit, un service du quotidien, puisqu'il dicte quelle tenue vous portez chaque jour ou quand il faut se mettre à l'abri. J'ai nommé Omblin.
Ça, c'est Anissa Dadi qui nous le dit.
Non, enfin oui, c'est pas faux, mais au-dessus d'Anissa, la source de ces bulletins, c'est quoi?
Météo France.
Voilà. Bon, Martin, j'allais dire les nuages, mais oui.
Météo France qui fournit les d'Anissa. Cartes, les images satellites à tous les journalistes météo qui diffusent régulièrement des appels à la vigilance lorsque des vents violents ou des risques d'orage sont imminents. Mais pour une fois, le bulletin d'alerte rouge qui a été lancé hier ne concerne pas tel ou tel département, mais l'organisme de prévision lui-même. Météo France est dans la tempête et c'est un sénateur chargé d'évaluer son budget qui le dit. Dans son rapport, Vincent Capo-Canella pointe la baisse drastique des crédits accordés à l'organisme public depuis quelques années. Moins 20%, c'est la baisse de la subvention de l'État depuis 10 ans. Résultat, les effectifs sont passés de 3345 en 2012 à 2736 l'année passée, soit 600 personnes en moins. Un écrémage considérable. Le prévisionniste est visiblement devenu une espèce menacée. Et c'est d'autant plus problématique qu'à l'heure du réchauffement climatique, on demande à Météo France de détecter le plus tôt possible les événements climatiques extrêmes pour sauver des vies. On réclame des prévisions de plus en plus fines, parfois à 500 mètres près. Un service essentiel, vital, notamment pour que les élus et les secours puissent anticiper et s'organiser en conséquence. Alors pour répondre à ces exigences grandissantes, Météo France a mis l'accent ces dernières années sur l'achat de supercalculateurs qui analysent les données en un éclair, des ordinateurs géants très onéreux. Ils ont coûté d'ailleurs récemment à l'organisme la modique somme de 150 millions d'euros. Le problème, c'est que les algorithmes ne font pas tout. Rien ne vaut l'expérience d'un météorologue local qui connaît le terrain, souligne le rapport. En clair, les processeurs, c'est bien, mais les processeurs et les cerveaux, c'est mieux.
Des supercalculateurs qui analysent des données en un éclair. Pour Météo France.
Excellent.
Un petit trait de l'esprit de ma part.
Très bonne. Merci beaucoup, Julien.
Mais, bien volontiers.
On referme ce pressing. Et Martin, vous revenez bien sûr dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports. À tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20, l'info en un éclair. Les principaux titres de l'actualité avec Alban Le Prince.
Joe Biden calme Emmanuel Macron. Les deux présidents se sont appelés hier, une semaine après l'affaire des sous-marins. Ils annoncent dans un communiqué commun lancer un processus de consultation approfondie. Objectif, garantir la confiance. Rencontre organisée aujourd'hui à l'ONU entre Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et son homologue américain. Dans le Figaro, ce matin, le patron de Naval Group prend la parole. En tant qu'industriel, nous ferons valoir tous nos droits. Il enverra la facture dans les prochaines semaines à l'Australie. Xavier Bertrand, le mieux placé pour la présidentielle selon les sympathisants de la droite. Résultat d'un sondage commandé par les Républicains. Et puis plainte d'Éric Zemmour en réponse à la une de Paris Match. Ce matin, une paparazzade dans laquelle on voit le polémiste très proche de sa conseillère Sarah Knafo lors d'une baignade après une séance de dédicace.
Il est 5h20 sur Europe 1 et comme chaque matin à cette heure-ci, on donne la parole à celles et ceux qui s'engagent et font bouger les lignes. Ce sont les initiatives en France et elles nous emmènent ce matin, Julien, dans les Hauts-de-France.
Bonjour Olivier Totti.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le président d'Aqua Itineris France, une association qui sillonne le pays pour permettre aux petits et aux plus grands également d'apprendre à nager. Mais au lieu d'emmener tout ce beau monde à la piscine municipale, eh bien vous amenez la piscine à eux. Expliquez-nous.
C'est un concept assez simple. On a cherché de la mobilité pour aller sur tous les territoires ou surtout ceux où ils étaient privés de piscine. Donc, on a trouvé comme moyen de se déplacer un camion, une semi-remorque. Et dans cette semi-remorque, on a installé une piscine, mais pas seulement. On a fait un équipement tout intégré avec des vestiaires, des sanitaires, la douche obligatoire avant d'aller dans le bassin.
Et elle est grande cette piscine? Parce qu'on imagine que la place est relativement restreinte dans un semi-remorque.
Alors, est-ce qu'elle est grande? Eh bien, écoutez, j'aurais envie de dire oui, puisque vous savez qu'on peut se noyer déjà rien que dans une flaque. Et nous, c'est plus qu'une flaque, puisqu'on a un bassin qui fait 8 mètres de long par 2 mètres de large.
Ah oui, c'est quand même relativement conséquent. Et je crois savoir d'ailleurs que le plancher du bassin est réglable, ce qui est pratique, notamment pour les jeunes enfants.
C'est une innovation, effectivement, que nous avons intégrée dans notre camion pour faciliter l'apprentissage et éviter de former en stressant les personnes. Puisqu'on les accueille, les enfants comme les adultes, avec 5 cm d'eau pour les acclimater à l'eau. Et ensuite, on va augmenter la profondeur du bassin en descendant notre plancher.
Comment vous est venue cette idée, un peu folle sur le papier, je me le permets mais de le dire, mais de mettre une piscine dans un camion?
En fait, le besoin s'est fait ressentir tout d'abord dans des missions humanitaires au Moyen Atlas. Mon ami Jean-François Buisson s'occupait de cela et s'est trouvé dans une situation où il devait apprendre la natation à des sauveteurs. Ils n'avaient pas de piscine sur place. Donc, il a eu cette idée, il a pu développer ce camion à son retour en Suisse. Et on s'est rencontrés, on a constaté qu'il y avait cette problématique également en France. Pas dans les mêmes proportions, mais on a quand même 30% de nos enfants qui rentrent en sixième qui ne savent pas nager. Et on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on y aille, il faut qu'on le développe, ce camion, qu'on le mette sur la route et qu'on aille au plus près des utilisateurs.
Les noyades, ce sont environ 1000 décès par an. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. On est en retard en France sur ce sujet.
La problématique dans certains pays est légèrement différente. Si vous prenez par exemple l'Espagne, ils ont un nombre de piscines privées chez les particuliers qui est plus important par exemple qu'en France. Donc ils ont une sensibilité à l'apprentissage qui est différente. Effectivement, notre taux en France est assez surprenant dans un pays dit développé, mais les causes sont multiples et je crois qu'il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit. Il faut surtout trouver le moyen de se mettre en action et d'œuvrer pour éviter ces drames.
Vous nous avez dit 30% des enfants entrant en sixième ne savent pas nager. J'imagine que la crise sanitaire que l'on vient de vivre et qu'on continue à vivre avec la fermeture des piscines n'a pas arrangé le problème.
Bien au contraire, oui, vous l'avez vu encore cet été. Et puis, vos confrères et vous-même, Europe 1, en avez parlé en tout début d'été de cette inquiétude que pouvaient avoir les maîtres nageurs sur les risques. Ça s'est révélé heureusement pas aussi dramatiquement que ce qu'ils annonçaient, bon, peut-être dû à la météo de cet été, mais oui, on constate qu'il y a un vrai retard dans l'apprentissage des enfants.
Alors en ce moment, votre camion piscine fait escale à Marle, c'est un village de l'Aisne. Vous vous installez principalement en zone rurale?
Oui, c'est une zone rurale, Marle, mais les prochaines destinations, il y en a certaines qui vont être en plein centre-ville, où il y a déjà des piscines, mais il n'y a pas assez de lignes d'eau et il s'agit d'aller soutenir l'existant déjà des piscines pour trouver moyen d'apprendre aux autres enfants qui n'y ont pas accès.
Ce sont les collectivités qui font appel à vous ?
Uniquement. Je profite de ce passage à l'antenne pour dire oui, les particuliers nous appellent, vous avez envie de nous appeler, nous demander de venir apprendre à vos enfants à nager. Aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à la demande de chaque particulier. Adressez-vous à votre mairie et la mairie va revenir vers nous pour organiser un passage du camion.
Pour conclure, j'imagine que de voir entrer dans votre semi-remorque des enfants qui ont peur de l'eau et qui, quelques jours plus tard, barbotent avec bonheur et nagent comme des champions, c'est une magnifique récompense.
C'est génial pour toute l'équipe de bénévoles que nous sommes, puisque nous sommes une association. Aujourd'hui, le plus difficile pour nous, c'est de trouver les moyens de fonctionner, comme toujours, comme pour beaucoup d'associations. Et voilà, vous pourrez retrouver un tas d'informations sur notre site internet www.aqua.itineris.fr et entre autres la possibilité de nous aider.
Merci infiniment Olivier Totti de nous avoir partagé votre belle initiative, ce semi-remorque avec une piscine intégrée qui sillonne le pays pour faire reculer le nombre de noyades. Je rappelle le nom de votre association, Aqua Itineris France. Bonne journée à vous.
Merci Julien.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, vous restez avec nous dans 10 minutes. Julien, que diriez-vous de mettre les rétro-lasers en action?
Si le dernier barrage saute, je serai responsable de la mort de tous ceux que j'aime.
Fulgure au point. 4 points, ces points qui se détachaient, qui tourbillonnaient avec des pointes en direction de l'ennemi. On connaît cette scène par cœur, Julien. Bien oui. sûr, vous faisiez peut-être partie de ceux qui rejouaient les scènes de Goldorak dans la cour de l'école, dessin animé dès 1978, dès sa première diffusion dans l'émission Récréa 2, a embarqué toute une génération de Français dans la culture japonaise. Le robot géant Goldorak est la star d'une rétrospective à la Maison de la Culture du Japon à Paris et on sera avec le commissaire de l'exposition.
On range maintenant les rétro-lasers, pas de ça à la table du petit déjeuner. Dans 20 minutes, on va retrouver Olivier Pouls qui va nous apporter pour les tartines un authentique beurre fermier au lait cru. On en salive d'avance. Mais avant, la fulguro météo d'Anissa Haddadi. Avant le soleil, attention brouillard, c'est ça hein.
Faire la météo avec Actarus, c'est un rêve.
Bah oui.
Alors oui, il y a des brouillards ce matin. Alors ça, il va falloir être prudent. En fait, c'est le même scénario qu'hier, c'est-à-dire qu'avant que le soleil arrive, on a vraiment une matinée avec des nuages bas. Donc soyez prudents du côté de Charleville-Mézières, le long des côtes de la Manche, dans la région lyonnaise, sur les plaines auvergnates, le Limousin, jusqu'au Pays Basque. Donc sur une grande partie sud-ouest du pays, on a pas mal de brouillard. Sur les côtes varoises, le vent d'est se lève aujourd'hui avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Les nuages bas vont très vite se dissiper et vous le disiez Julien, il va faire beau sur quasiment tout le pays. On a quelques nuages qui s'accrochent sur le Cotentin et le Finistère et puis dans les Pyrénées comme hier, on peut avoir une averse en montagne. Ce matin, il fait frais. 6 degrés à Nancy, 7 à Caen et Strasbourg, 8 degrés à Clermont-Ferrand, 12 à Paris, 14 à Tarbes et 19 à Nice. Cet après-midi, c'est exactement comme hier, 19 à Saint-Brieuc, 22 à Paris et 29 pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, votre journal, 5h30.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Ça va être long pour que je leur pardonne, mais j'ai envie d'avancer et j'ai envie de les croire sincères sur leurs excuses.
Elle tente de tourner la page après un déferlement de haine sur Twitter. Miss Provence avait été victime d'insultes antisémites sur le réseau social. 8 personnes comparaissaient devant le tribunal hier. La taxe d'habitation ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Le gouvernement entérine sa disparition définitive en 2023. Cela concerne 20% des foyers les plus aisés. Il faudra encore la payer cette année, mais son montant est minoré de 30%. Bas les masques, il ne sera plus obligatoire à l'école primaire dès le 4 octobre dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 54%. Pour 100 000 habitants. Et puis moins d'un Français sur deux croit en Dieu aujourd'hui. Résultat d'un sondage IFOP. Toutes les religions sont concernées par cette prise de distance avec la foi. Explication dans ce journal.
Europe 1.
Le journal de 5h30. C'est Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est la chronique d'une haine ordinaire et c'est ce qui la rend intolérable. Elle s'étale pourtant régulièrement sur les réseaux sociaux. La cible cette fois est une jeune femme, pas tout à fait une inconnue puisqu'il s'agit de Miss Provence. Son tort, avoir dit sa fierté quant à ses origines juives. Un torrent de boue antisémite s'était alors déversé sur Twitter. 8 personnes étaient jugées pour insultes hier devant le tribunal. 7 se sont présentées et leur profil a de quoi étonner Marion Gauthier.
Oui, 4 hommes et 3 femmes aux revenus modestes mais insérés. La plupart ont moins de 24 ans. La doyenne en a 58. À la barre, elle se tord les mains. « J'ai honte », souffle-t-elle, les yeux humides. Le 19 décembre dernier, la mère de famille fait référence aux origines de Miss Provence, accompagnant son propos d'une photo d'Hitler. Sur Twitter, certains traitent la candidate de chienne, d'autres appellent à boycotter la juive. Tous demandent pardon aujourd'hui et plaident « la bêtise, le tweet trop rapide, écrit aux toilettes », confesse l'un des prévenus. April Benayoum se masse les tempes, elle sort éprouvée après 8 heures d'audience.
Je me suis replongée 9 mois en arrière et ça va être long pour que je leur pardonne puisqu'il y a des séquelles encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'ai envie d'avancer et j'ai envie de les croire sincères sur leurs excuses.
La leçon est comprise, assure un prévenu après une défense maladroite. J'ai toujours insulté tout le monde, mais sur les réseaux sociaux uniquement, a-t-il déclaré. On est une seule et même personne dans la vie, lui a répondu le procureur dans son réquisitoire. Le magistrat requiert 2 ans de prison avec sursis pour tous les prévenus. La décision est fixée au 3 novembre.
Marion Gauthier. Au procès des attentats du 13 novembre 2015, la cour d'assises spéciale a entendu le témoignage du premier policier à être entré avec son collègue dans la salle du Bataclan 12 minutes seulement après le début de la fusillade. Ce commissaire de la BAC a livré un récit à la fois terrible et émouvant de son face-à-face avec la mort et les terroristes.
Le projet de budget 2022 fait s'envoler les dépenses, plus de 11 milliards d'euros supplémentaires. Il entérine aussi la fin de la taxe d'habitation pour tous.
Il faut rappeler que seuls 20% des foyers les plus aisés la paient toujours. Certains vont même avoir la désagréable surprise de devoir s'en acquitter cette année, alors qu'ils en avaient été exonérés l'an dernier. Mais cette fois, c'est sûr, elle va bel et bien disparaître. Définitivement, ce sera pour 2023, Carole Ferry.
Effectivement, plus aucun Français ne payera la taxe d'habitation en 2023. Pour ceux qui la payent encore, soit environ 7 millions de Français, les plus aisés, les premières économies vont commencer dès cette année. Le montant va diminuer de 30%. Vous pourrez le vérifier dès la semaine prochaine, puisque c'est fin septembre qu'il faut s'acquitter de cette fameuse taxe d'habitation. Moins 30% donc cette année, moins 65% l'an prochain, et c'est donc bien inscrit dans le budget 2022. Prenons un exemple. Si vous payez 800 euros par an, cette année, vous ne paierez que 560 euros, l'an prochain, 280 euros, et plus rien en 2023. Attention toutefois aux surprises, bonnes ou mauvaises, si vos revenus ont changé cette année. S'ils ont augmenté, vous pouvez passer dans la catégorie des Français les plus aisés et payer à nouveau une taxe d'habitation, réduite donc. Si au contraire, vos revenus ont diminué, vous pouvez basculer dans la catégorie des Français désormais exonérés. Vous pourriez donc n'avoir rien à payer.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
On espérait un allègement, mais le gouvernement maintient le pass sanitaire. Il a quand même levé certaines contraintes.
Le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles primaires à partir du 4 octobre dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 50. Les adultes, en revanche, devront le garder. Mais pour les élèves, c'est une très bonne nouvelle, comme l'explique la pédiatre Catherine Saligné.
Le masque, on leur montre que la pandémie recule et toute cette angoisse qu'ils ressentaient vis-à-vis de la maladie va certainement diminuer. Ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est que le masque, même si la grande majorité des enfants le supportait très très bien, certains disaient qu'ils avaient mal à la tête, que ça allait empêcher de respirer quand ils couraient dans la cour. Enfin, toutes choses que nous avons nous-mêmes remarquées en tant qu'adultes. Ils disaient que ça les empêchait de voir les mimiques de leurs camarades. Les petits inconvénients du haut masque vont disparaître. Je pense que les enfants vont être très soulagés de cette mesure.
Catherine Saligny avec Virginie Rivage ajoute que les jauges seront également supprimées dans tous les établissements recevant du public, avec toujours la même condition, un taux inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants pendant 5 jours consécutifs.
On en vient à la campagne pour les élections présidentielles et à droite, Xavier Bertrand semble avoir l'avantage.
Même si le président des Hauts-de-France refuse le principe d'une primaire, les électeurs LR ne lui en tiennent pas rigueur. Résultat de l'enquête IFOP menée par le parti auprès des sympathisants de droite, Xavier Bertrand reste leur candidat préféré devant Valérie Pécresse. Le Congrès des Républicains décidera ce week-end du mode de désignation, primaire ouverte ou vote réservé aux seuls militants. Chez Europe Écologie Les Verts, les deux finalistes de la primaire ont débattu hier soir à la télévision. Yannick Jadot et Sandrine Rousseau ont étalé leurs divergences sur la pratique du pouvoir et la place de la voiture notamment. Lui ne s'est pas encore déclaré, mais il continue de faire comme si. Éric Zemmour va profiter de son passage à Budapest pour s'entretenir avec le ministre hongrois Viktor Orban. Rencontre officielle en marge d'un sommet sur la démographie.
Quel est le rapport des Français à la religion? Eh bien, il est de plus en plus distant.
Résultat d'un sondage IFOP, moins d'un Français sur deux affirme croire en Dieu. Et ce qui est surprenant, Nicolas Feldman, c'est que cela concerne toutes les religions.
Oui, que l'on parle de catholicisme, d'islam, de judaïsme ou de toute autre religion, eh bien aujourd'hui, moins d'un Français sur deux, 49% des sondés disent croire en Dieu. Un recul de 6 points par rapport à 2004, mais surtout de 17 points par rapport à 1947. Alors comment expliquer cette évolution? Jean-Paul Villem est sociologue des religions, il est directeur d'études émérites à l'École pratique des hautes études.
C'est l'époque où plus de modernité a signifié moins de religion. Suite aux différents développements économiques, scientifiques, éducatifs, on croit plus au progrès à travers le bien-être matériel, à travers la science, la technique. Le bonheur terrestre a pris le pas sur le bonheur céleste.
Alors une constante demeure tout de même, les personnes âgées croient plus en Dieu que les jeunes. 68% répondent par l'affirmative chez les plus de 65 ans contre 48% chez les 18-24 ans. L'un des autres enseignements de ce sondage, c'est que les Français échangent moins qu'avant sur la religion. 38% disent en parler en famille aujourd'hui, ils étaient près de 58% en 2009.
Enquête signée Nicolas Feldman. Un mot de football, le PSG accroît son avance au classement de la Ligue 1 après sa victoire 2-1 contre Metz hier soir. Ses deux poursuivants, Marseille et Angers ont fait match nul 0-0 avec de nouveaux incidents. Des supporters sont entrés sur la pelouse quelques minutes après le coup de sifflet final. Le carton de la soirée, c'est pour Rennes qui a battu Clermont 6-0.
Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On retrouve maintenant Thierry Léger pour les courses et ses pronostics du quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction Vincennes pour un quintet qui réunira 15 trotteurs âgés de 6 à 10 ans, tous bien connus des turfistes, et je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection le numéro 12, 007 Gare, l'un des deux trotteurs âgés de 6 ans au départ de ce quintet, et je sais que ce concurrent italien a été préparé avec soin en vue de cet objectif. L'opposition sera constituée par Chaco Jazz, le numéro 6, un Suédois désormais entraîné par Jean-Michel Bazir, et dont la dernière victoire obtenue à Caen-sur-Mer me laisse à penser qu'il devrait confirmer à Vincennes avec deux ex machina, le numéro 9, qui reste sur la bagatelle de 3 victoires consécutives, toutes obtenues avec facilité. Ensuite, méfiez-vous des numéros 3, Elliot Dambry, une première chance. Jugez sur ce qu'il a réalisé de mieux. 2, Elena Di Quattro, souvent vu à son avantage à ce niveau et sur ce parcours. Et 11, Élude Dompierre, qui effectuera un long déplacement depuis le centre-est. Enfin, les numéros 5, Erdelios et 7, Fly Speed, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 12, 6, 9, 3, 2, 11, 5 et 7.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h39, bon début de matinée. On va prendre dans un instant la direction de la Maison de la Culture du Japon à Paris, où se tient en ce moment l'exposition Goldorak. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h40 sur Europe 1. Bon réveil en ce jeudi matin. D'ailleurs, si je vous dis fulgure au point ou rétro laser, peut-être que cela va réveiller le grand enfant qui sommeille en vous. Goldorak fête ses 46 ans avec à son bord, bien sûr, le prince de l'espace Actarus, icône de la pop culture japonaise. Le gigantesque robot guerrier a droit à sa rétrospective à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Et pour nous en parler, Omblin, nous sommes avec le commissaire de l'exposition, Olivier Fallet.
Bonjour Olivier Fallet.
Bonjour.
On fait la connaissance de Goldorak et d'Actarus le 3 juillet 1978, lorsque le dessin animé japonais est diffusé sur Antenne 2 dans la toute première émission Récréa 2 présentée par Dorothée, Gérard Chambre et Fabrice. C'est une petite révolution dans notre petit écran. Pourquoi un tel engouement pour ce héros nippon qui bouleverse finalement les programmes jeunesse à la télé?
Comme vous le dites, justement, ça bouleverse ces programmes parce qu'avant Goldorak, la télévision, en tout cas les programmes jeunesse en France, c'était d'autres choses. C'était Casimir, L'île aux enfants sur TF1. Ce sont des cartoons de type Hanna-Barbera. Et puis l'image du dessin animé, c'est Walt Disney. Donc un robot géant qui arrive, qui défend la Terre contre des extraterrestres, c'est complètement nouveau. Ça change la vision et en tout cas les histoires qu'on pouvait regarder quand on était jeune à cette époque-là.
Les enfants en sont fous assez vite. Les parents, en revanche, ils sont inquiets.
C'est un peu un conflit de génération, en effet, parce que les enfants, ils adorent Goldorak, qui justement, ses aventures les fascinent. Les adultes, à l'époque, ils comprennent pas trop. Ce n'est pas leur culture, ce n'est pas leur référence. Ils trouvent que c'est pas très bien fait, que ça peut être violent. Ce qui est vrai aussi, surtout si on le compare aux autres programmes qu'on pouvait regarder à l'époque. Il y a des histoires qui sont un peu dures dans Goldorak. Ça parle aussi un peu de guerre, d'affrontement. Mais voilà, le succès est quand même là. Et c'est quand même quelque chose qui va profondément entrer dans notre culture.
Comment expliquez-vous que ce héros de dessin animé japonais qui fête, je le rappelle, ses 46 ans, a réussi à traverser le temps et a passionné comme ça plusieurs générations de Français? Pourquoi il dure, Goldorak?
Déjà, il dure parce qu'il a été diffusé pendant longtemps. Pendant presque une douzaine d'années, Goldorak, ça va passer plusieurs fois dans l'émission Récréa 2. Ensuite, ça va même passer sur la 6, ça arrive sur la 5. Dorothée le récupère quand elle quitte la 2 pour fonder le club Dorothée sur TF1, fraîchement privatisé. Et pendant toutes ces années, Goldorak va toujours être présent et puis va continuer d'avoir du succès. Donc déjà, plusieurs générations d'enfants vont grandir avec Goldorak. Et puis du coup, il reste quand même une icône un peu particulière, un attachement. Après, à l'inverse, il va complètement disparaître du petit écran. Ça va créer aussi une sorte de manque. C'est vraiment quand il revient en 2013, qu'il ressort enfin en vidéo, qu'il est remis à la télévision, qu'on retrouve avec plaisir ces aventures qui ont certes un petit peu vieilli, mais finalement qui fonctionnent toujours avec des histoires et des personnages très forts.
Le dessin animé ne se résume pas à la bagarre, hein. On en parlait un petit peu plus tôt, un robot à la menace de terribles méchants. Vous direz qu'il y a d'autres niveaux de lecture qui véhiculent aussi des messages universels dès 1978.
en France.
Bien sûr. Alors, il faut rappeler qu'avant tout, c'est quand même un dessin animé, même au Japon, qui est fait pour divertir. Il n'y avait pas volonté de passer un quelconque message. Mais les gens qui ont créé Goldorak, que ce soit l'auteur du concept Go Nagai, l'auteur de manga, mais aussi toutes les équipes de scénaristes du studio Toei Animation, c'est des gens qui étaient enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont vu la chute du Japon, la bombe atomique, etc. Et puis surtout les horreurs de la guerre, Tokyo qui a été beaucoup bombardé. Non pas qu'ils aient mis ces choses-là dans les histoires, mais on peut sentir il y a une forme de ressenti. Ils essaient de faire passer toutes les horreurs que peuvent être la guerre. Et Goldorak lui-même, c'est ces forces de Vega qui viennent attaquer la Terre avec une puissance démesurée. C'est un peu l'image aussi du bombardement atomique. Il y a aussi cette idée, déjà un peu précurseur, de préserver la planète, quoi. Actarus, qui pilote Goldorak, lui, préfère travailler dans son ranch et s'occuper de ses chevaux que de piloter un robot.
Il reste l'un des héros les plus populaires au monde. Est-ce que c'est lui qui a véritablement ouvert la France à la culture manga? Pourquoi? En fait, pourquoi lui? Pourquoi pas Albator, par exemple?
Pas tout à fait au monde, hein, parce que le succès de Goldorak, c'est vraiment de quelque chose de français et ouais. Étant juste à quelques pays comme l'Italie et quelques pays arabes, en Égypte notamment, parce qu'au Japon, c'était pas aussi connu. Ce qui est plus connu, c'est une autre série de l'auteur qui s'appelle Mazinger Z. C'était ça, le premier robot révolutionnaire qui se pilotait de l'intérieur. C'était le concept à l'époque qui a vraiment tout changé. Et Goldorak n'est que la troisième série de cette trilogie. Pourquoi pas Albator? Et parce qu'Albator est arrivé après. Goldorak, ça a été la première série. Et grâce à Goldorak, derrière, on a eu d'autres séries produites au Japon. Les Japonais produisaient vraiment des choses très différentes qu'on n'avait pas, que ce soit par exemple Candy, pour raconter des histoires d'amour dramatiques, sentimentales, plus ancrées dans le réel, ou effectivement après Albator, Capitaine Flamme. Mais c'est grâce au succès de Goldorak qui a été le premier que derrière on a eu toutes ces séries qui font qu'aujourd'hui la France est vraiment un pays où on a un grand pont culturel avec le Japon, où on est le pays où on consomme le plus de mangas. Et finalement, l'origine de tout ça, c'est l'arrivée de Goldorak en 78.
Ouais, la culture nippone continue de fasciner, et aujourd'hui particulièrement, on voit, vous êtes en train de le dire, on voit des mangatèques aujourd'hui fleurir un peu partout. Vraiment, ce succès ne se dément pas. Comment vous expliquez cela?
Une BD sur deux qui se vend en France actuellement, c'est un manga. Donc c'est effectivement quelque chose qui est profondément ancré chez nous. Ben, tout simplement parce que ces dessins animés japonais, qui étaient critiqués à l'époque, mais ils sont vraiment arrivés à une époque où il y avait peu de chaînes. Tous les gens qui ont grandi pendant les années 80 ont forcément vu ces séries japonaises. Donc c'est rentré dans les foyers. Finalement, on l'a assimilé dans notre culture. Et aujourd'hui, on est prêt. C'est pour ça qu'on a cet attrait pour le Japon, pour cette culture, pour les mangas. Et puis on a même des créateurs français qui aujourd'hui ont baigné dans cet univers et qui ont créé des œuvres qui s'inspirent aussi de ces créations japonaises.
Merci beaucoup, Olivier Fallet. Vous êtes le commissaire de l'exposition Goldorak Expérience. C'est jusqu'au 30 octobre prochain à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Merci.
Merci beaucoup.
Allez, on accueille maintenant un autre chevalier des temps nouveaux, notre Goldorak du bien manger. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Alors
bonjour.
Comme chaque jeudi, vous explorez pour nous notre patrimoine gastronomique. La semaine dernière, on s'en souvient, vous nous avez parlé de jambon. Et aujourd'hui, vous vous penchez sur le beurre, jambon beurre, un incontournable.
Ben oui, évidemment, il ne vous manquera plus alors que la baguette pour que le festin soit complet. Alors si vous voyagez un peu, je sais que ce n'est pas facile en ce moment, mais vous avez certainement remarqué qu'en dehors de chez nous, en dehors de la France, il est assez difficile de trouver du bon beurre. On peut même dire qu'aujourd'hui, le monde se divise en deux catégories, ceux qui mangent du beurre et ceux surtout qui consomment de l'huile essentiellement d'olive. Alors, si cette dernière semble avoir été ces dernières années plutôt tendance, on connaît les bienfaits pour la santé avec le régime méditerranéen, eh bien, le beurre, figurez-vous, notre beurre fait de la résistance et dans les grands restaurants, on le retrouve et surtout, on retrouve des beurres de qualité qui avaient, je dois bien le dire, un peu disparu. Alors précisons d'abord en un mot ce qu'est le beurre, c'est un dérivé du lait, plus précisément de la crème, que l'on obtient par barattage, une technique maîtrisée depuis 6500 ans, figurez-vous. Mais c'est qu'à partir du XVIIe siècle que les Français se sont vraiment intéressés au beurre, le préférant alors au Saint-Doux, et on les comprend, qu'on consommait majoritairement avant.
Alors, il y a beurre et beurre.
Eh bien voilà, évidemment. Alors, regardez ce que je vous ai apporté. Un vrai beurre authentique, fermier ou lait cru. Car comme pour le fromage, tout l'enjeu est bien là. Le beurre artisanal fermier ou lait cru contre le beurre industriel ou lait pasteurisé, ça n'a strictement rien à voir.
Oui, il est très jaune.
Alors, première chose, vous l'avez remarqué, il est très jaune. rien qu'à l'odeur, avant de l'avoir mangé, on est à la campagne, ça sent les foins, ça sent la fleur, ça sent un peu la vache aussi. Alors celui-ci vient de la ferme du Verne à Ploubers, dans les Côtes d'Armor. Et la particularité de ce beurre, c'est qu'il a été réalisé en grande majorité à base de lait d'une race de vache qui avait pratiquement disparu, qui est la froment du Léon. Et la qualité du beurre est évidemment influencée par celle de la vache, évidemment, du lait, de l'alimentation de la vache, du nombre de traites par jour, puisqu'en été, par exemple, les vaches pâturent, elles mangent des herbes fraîches et des fleurs, et elles produisent donc un lait qui est plus parfumé, le beurre n'en est que meilleur. Ben oui, pour le beurre aussi, il y a une saison.
Alors, comment s'y retrouver lorsque je dois choisir ce beurre?
Eh bien, vous allez... Vous allez préférer aller évidemment chez votre fromager ou chez votre crémier, choisir un beurre au lait cru qui n'a donc pas été chauffé, sélectionner de préférence un beurre de baratte obtenu de manière traditionnelle et qui exclut la majorité des procédés industriels comme la désodorisation de la crème, la congélation, l'utilisation de ferments, etc. Et si vous avez un peu de temps devant vous, vous savez que vous pouvez même le faire, le beurre. C'est pas très compliqué, ça prend une quinzaine de minutes. Si vous avez une bonne crème crue liquide, vous passez ça tout simplement dans un appareil qui la fouette pendant 15 minutes de manière intense. Vous avez le petit lait qui va se séparer, il n'y aura plus qu'à égoutter et vous allez récupérer du beurre.
Vous avez des producteurs à nous recommander, Olivier ?
Eh bien voilà, celui que je vous ai apporté, par exemple, la ferme du Verne dans les Côtes d'Armor. Il y en a un autre qui est un peu ce moment la star des chefs, c'est le beurre de la ferme du Ponclet, absolument remarquable, c'est dans le Finistère. Parmi tous ces beurres, vous allez trouver votre bonheur. Et puis si je vous rapportais encore un petit morceau de jambon la semaine dernière, je crois qu'on n'est pas loin de toucher au sublime.
Quoi
de meilleur qu'un bon jambon beurre. À cette heure-ci, c'est peut-être encore un peu compliqué le vin, mais jambon beurre à cette heure-là, moi j'ai pas de problème.
On le conserve moins longtemps qu'un beurre pasteurisé, ce beurre au lait cru.
Oui, absolument, c'est un peu l'inconvénient. Quelques jours seulement au frigo, on fait très attention. On peut le congeler éventuellement, mais bien évidemment, c'est un beurre qui est beaucoup plus fragile. Mais quelle différence de goût finalement.
Et quelle qualité.
On peut confirmer.
Merci beaucoup, Olivier Pouls.
Bonne journée.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 5h51, très bon réveil à tous. Le journal permanent, l'essentiel de l'actualité avec Alban Leprince.
Ils ont enfin discuté. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont appelés hier, une semaine après l'affaire des sous-marins. Les deux présidents veulent garantir la confiance et annoncent le lancement d'un processus de consultation approfondie. La facture sera envoyée dans les prochaines semaines à l'Australie. Le patron de Naval Group prend la parole dans le Figaro ce matin. En tant qu'industriel, nous ferons valoir tous nos droits. Les masques tombent pour les élèves de primaire à partir du 4 octobre, mais pas partout, seulement dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 50. Annonce du porte-parole du gouvernement hier, le pass sanitaire reste en revanche en vigueur. Le QR code de celui d'Emmanuel Macron dévoilé par des soignants, vous le révélez sur Europe 1, l'assurance maladie annonce qu'ils sont identifiés. Une saisine de leurs ordres professionnels est en cours.
Europe Matin.
Que se passe-t-il au plus près de chez vous? Qu'est-ce qui fait l'actualité dans votre département? C'est la question que l'on pose chaque matin dans C'est en France. On sélectionne chaque jour un article de la presse régionale et c'est celui ou celle qui l'a écrit qui nous le raconte.
Bonjour Patrice Maggio.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes, je le rappelle, le directeur adjoint des rédactions du groupe Nice Matin où l'on peut lire dans l'édition du jour un article sur la pénurie de personnel dans les hôpitaux. Elle touche tous les établissements mais particulièrement ceux dédiés à la prise en charge des personnes âgées. Vous nous donnez d'ailleurs un exemple très concret.
Oui, ce qui est bien dans cet exemple que l'on donne, c'est que c'est un directeur d'hôpital qui témoigne. C'est le directeur d'un hôpital privé gériatrique qui s'appelle Les Sources à Nice. C'est le seul, en fait, qui est spécialisé vraiment dans la prise en charge des personnes âgées dans toute la région PACA Est. Et il nous explique bien à quel point la situation qu'il connaît aujourd'hui, en 40 ans, il ne l'a jamais connue. C'est pas vraiment lié au départ des soignants qui démissionneraient parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce sont des couches et des couches de fatigue, de sollicitations, de tensions qui se sont accumulées, qui fait qu'aujourd'hui, l'hôpital craque. Il en est au point où il a dû fermer 41 lits dans son établissement depuis cet été et qu'il ne sait pas comment les rouvrir. Parce que les gens partent et son problème, c'est que personne ne veut venir travailler chez lui, y compris et surtout la nuit, parce que la pré-pénurie, elle porte là-dessus, ce sont sur les personnels de nuit. Il a beau proposer de mieux les payer, il a beau proposer de leur percer des primes, même de leur faire des cours de shiatsu, de sophrologie, il n'y a rien qui marche.
Concrètement, aujourd'hui, cet établissement est contraint de refuser des hospitalisations de personnes âgées à cause de la fermeture de ces 41 lits ?
Ah, complètement, parce que c'était auparavant un établissement qui était occupé à 100% de sa capacité. Donc la 41 lits en moins sur un hôpital de cette taille, c'est énorme. Alors il apporte pas vraiment cet aspect-là des choses. C'est déjà très courageux de sa part de témoigner. Il faut savoir qu'on a sollicité un certain nombre d'autres directeurs d'établissements. Ils nous ont tous dit cette situation-là, elle est réelle. Elle peut même parfois être pire chez nous, mais évidemment, ils ne souhaitent pas apparaître à visage découvert. Mais on voit qu'aujourd'hui, le système ne peut plus absorber la demande et toutes les personnes qui sont en souffrance.
C'est une situation qui était antérieure à la crise du Covid. Elle n'a évidemment rien arrangé. On est donc confronté à des vagues de démissions d'aides-soignants, d'infirmiers, d'infirmières qui sont tout simplement épuisés, qui n'en peuvent plus.
Oui, c'est ça, ils craquent. Ça touche aussi bien d'ailleurs le public que le privé, parce que dans ce dossier de Nice ce matin, il y a aussi des infirmiers du public qui viennent. Et ces infirmiers qui étaient là parfois depuis 6, 10, 13 ans, c'était vraiment des établissements en plus où les gens se sentaient plutôt bien, où il n'y avait pas beaucoup de turnover. Ben là, ils peuvent plus, quoi. Ils préfèrent renoncer, changer de vie. La Covid a permis au moins ça, c'est de dire est-ce que ma vie a un sens, est-ce que ça vaut le coup de continuer. Et beaucoup ont préféré démissionner. Et ceux qui restent sont vraiment très très fatigués, au point que quand on les appelle sur leur week-end, sur leurs vacances pour rentrer, beaucoup maintenant préfèrent dire non parce qu'ils ne s'y retrouvent plus.
Merci beaucoup Patrice Madio d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir raconté cet article à la fois passionnant et inquiétant, il faut bien le dire, article à lire aujourd'hui dans Nice Matin. Bonne journée à vous et à très bientôt sur Europe 1.
Au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil, il est 5h57. À suivre, Julien, dans la prochaine demi-heure.
Quel a été l'impact de la crise sur les rémunérations des cadres l'année dernière? C'est la question que s'est posée l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Premier constat, les salaires ont résisté à la crise, mais il y a un gros point noir. Les inégalités entre les femmes et les hommes ont progressé, en clair. Mesdames, vous avez été moins nombreuses que vos collègues masculins à recevoir une augmentation. Comment l'expliquer? Y a-t-il eu un effet télétravail que vous avez été plus nombreuses à pratiquer à haute dose, principalement à cause des enfants? Réponse dans 20 minutes avec Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Il est celui qui a fait se rencontrer rock et musique latine. Le groupe du guitariste virtuose Carlos Santana est né aux yeux du monde sur la scène de Woodstock en 1969. Il entre dans la légende un an plus tard avec l'album Abraxas, la partition, dans 20 minutes.
Mais avant la météo, Anissa Haddadi, même s'il fait frais ce matin, l'après-midi sera très agréable.
Oui, il fait très frais. Il faut savoir qu'hier, on a eu les premières petites gelées blanches dans les Ardennes belges. Donc, il fait très frais le matin. Alors, pourquoi? Parce que Omblin me posait la question quand elle est arrivée au milieu de la nuit. Pourquoi il fait aussi frais? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, la nuit, le ciel est très dégagé. On n'a pas de nuages. Donc, quand il n'y a pas de nuages, bah, la fraîcheur, elle descend jusque sur les sols. Et puis, autre raison, depuis hier, c'est l'automne. Et donc, du coup, les nuits sont un petit peu plus longues. Maintenant, on est en train de basculer de l'autre côté. Donc ce matin, nous avons 4 degrés à 3, 5 à Charleville-Mézières et Épinal, 7 degrés à Strasbourg et Saint-Quentin, 12 à Paris, 16 degrés à Marignane et Calvi, c'est agréable dans le sud. Cet après-midi, nous aurons quasiment les mêmes températures qu'hier, 19 à 29, 19 à Boulogne-sur-Mer, 22 à Paris, 27 à Marseille et du grand soleil pour tout le monde cet après-midi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous, c'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il a beau faire cavalier seul à droite, il fait toujours la course en tête. Xavier Bertrand, favori d'un sondage auprès de 15 000 sympathisants. Le président de la région des Hauts-de-France a même reçu hier un soutien du bout des lèvres de Nicolas Sarkozy. Le soulagement des salariés de l'usine General Electric de Belfort, les turbines américaines pourraient repasser sous pavillon tricolore. Des discussions sont en cours avec EDF. 30 minutes par téléphone et la tension retombe. Une semaine après la crise des sous-marins, Joe Biden et Emmanuel Macron lance des consultations pour rétablir la confiance entre les deux pays. Le journal de 6 heures vous est présenté par Roman Hoquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Il n'est pas encore le candidat naturel de la droite, mais il est sur le bon chemin. Xavier Bertrand sort favori du sondage commandé par Les Républicains. Une prise de température parmi 15 000 sympathisants de droite pour évaluer les chances de victoire des candidats. Alexandre Chauveau, si l'avantage est donné à Xavier Bertrand, pour autant le match est loin d'être terminé.
Oui, les écarts sont assez serrés entre Xavier Bertrand et Michel Barnier, notamment quasi égalité entre les deux hommes sur la capacité à gérer une crise ou à rassembler autour des valeurs de droite. Valérie Pécresse, elle, est légèrement derrière, tout en obtenant de bons scores auprès des sondés. 76% des sympathisants LR la voient par exemple comme proche des préoccupations des Français. Des candidats quasiment au coude à coude, laissons-les faire campagne, soufflait Nadine Morano hier soir au siège des Républicains, alors que le candidat LR ne sera pas désigné avant le 4 décembre prochain. D'ici là, les militants devront choisir le mode de départage de leur candidat entre une primaire ouverte aux sympathisants de droite ou un vote en congrès réservé uniquement aux adhérents. Les résultats de l'enquête IFOP semblent indiquer qu'ils sont plutôt favorables à la deuxième solution, ce qui impliquerait que Xavier Bertrand, en tête sur la majorité des thèmes du sondage et qui a toujours été opposé à une primaire, pourrait finalement devoir présenter sa candidature aux militants pour obtenir le soutien du parti.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Xavier Bertrand qui semble aussi pouvoir compter sur Nicolas Sarkozy. L'ex-chef de l'État pencherait pour le patron des Hauts-de-France. Lors d'une séance de dédicace hier à Lille, Nicolas Sarkozy a appelé, je cite, son fidèle ami à se faire entendre.
Le soulagement pour les salariés du site General Electric de Belfort. Après 6 ans sous pavillon américain et des centaines de suppressions de postes, les turbines nucléaires pourraient redevenir tricolores.
Des discussions entre General Electric, l'actuel propriétaire, et le français EDF sont en cours. Pour l'instant, les deux parties jouent la prudence. En tout cas, Élise Dangean, cette reprise par EDF est souhaitée par le gouvernement.
Absolument, l'annonce a été immédiatement saluée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui parle d'une première étape positive. Selon lui, une telle opération répondrait pleinement à l'ambition industrielle de la France en faveur de cette filière. On est ici dans des logiques de souveraineté. Du côté des salariés aussi, on se réjouit, comme l'explique Philippe Petit-Collin, coordinateur CFE-CGC du groupe General Electric en France.
C'est clairement une lumière au bout du tunnel. Pour une fois, il y a peut-être un projet qui donnerait des perspectives d'avenir. Donc c'est un changement radical dans tout ce qu'on a pu vivre depuis 5 ans. Surtout l'opportunité de revenir sur un giron français avec des dirigeants en France sur un secteur stratégique pour la France qui est le nucléaire.
Seule réserve des salariés, la nature du projet industriel, pour quel marché, quel périmètre d'activité. Par ailleurs, l'État va-t-il suivre avec le lancement de nouveaux EPR? Certains s'inquiètent même de possibles conflits d'intérêts avec les contrats de Rosatom, le concurrent russe d'EDF par exemple.
Les précisions d'Élise Dangean du service Société d'Europe 1.
Le patron de Total Energy visé par une enquête du parquet national financier. Plusieurs association accuse Patrick Pouyanné de conflit d'intérêts au sujet d'un centre de recherche au sein du campus de Polytechnique. Le PDG est soupçonné d'avoir profité de son statut de membre du conseil d'administration de l'école pour obtenir l'installation du bâtiment.
Alexandre Benalla face à ses victimes, une première depuis le début de son procès.
Hier, le tribunal correctionnel de Paris s'est concentré sur l'interpellation musclée d'un manifestant dans le jardin des Plantes. C'était le 1er mai 2018. Le récit de l'audience par Marion Dubreuil.
Le tribunal a diffusé une vidéo sur laquelle Alexandre Benalla, brassard police sur l'avant-bras, et Vincent Crasse encadrent un manifestant. Ils ressemblent à des policiers en civil et sont entourés par des CRS. Que vous inspirent ces images 3 ans après, demande le juge. Je suis un citoyen comme un autre, répond Alexandre Benalla. Il invoque l'article 73 du code de procédure pénale qui autorise tout citoyen à appréhender un suspect en flagrant délit. Ici, un manifestant qui a jeté des projectiles sur les CRS. Que se serait-il passé si vous n'aviez pas couru après lui, lui demande le juge. Un agresseur de flic aurait pris la fuite, affirme l'ex-chargé de mission de l'Élysée. Invité par le juge à donner son avis, le commissaire Creusat, également sur le banc des prévenus, estime qu'Alexandre Benalla et Vincent Crasse n'auraient pas dû intervenir. Il ajoute « Le vrai problème, c'est le coup de canif dans le contrat social qui rejaillit sur la confiance des citoyens dans la police. »
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Une semaine après le début de la crise des sous-marins, ce sera le premier tête-à-tête franco-américain. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, va rencontrer en personne aujourd'hui son homologue Anthony Blinken.
Hier, les deux pays ont déjà acté la fin des hostilités. Pas de drapeau blanc, mais un coup de téléphone entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le contenu de cet appel entre les deux présidents a été détaillé hier lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche.
Oui, pas moins de 7 questions posées à la porte-parole de la Maison-Blanche, sujet aussi important que la crise migratoire à la frontière mexicaine. Jen Psaki a donné quelques précisions sur l'ambiance de ce coup de téléphone. Ça a duré 30 minutes et c'était amical. Le président espère que c'est une étape vers un retour à la normale. Joe Biden a reconnu pendant cet appel qu'il y aurait pu y avoir davantage de discussions en amont. C'était pour lui un message important à faire passer. Alors pour Washington, c'est une manière de reconnaître une erreur, un faux pas, au moins dans la communication. Interrogé pour savoir s'il y a eu des excuses de la part de Joe Biden, la porte-parole a botté en touche sans répondre précisément. La Maison-Blanche a également envoyé une photo aux journalistes. On y voit Joe Biden tout sourire derrière le bureau ovale pendant sa conversation avec Emmanuel Macron. Signe que les États-Unis veulent aller de l'avant. Washington répète que la France est un partenaire essentiel, y compris dans l'Indo-Pacifique. Après cet exercice de communication, il faut maintenant réparer cette relation franco-américaine. Cela passe par le retour de l'ambassadeur français aux États-Unis la semaine prochaine et par une rencontre entre les deux présidents dès le mois prochain en Europe.
Alexis Guilleux, correspondant aux États-Unis pour Europe 1. Le français Naval Group va remettre dans quelques semaines à l'Australie une proposition détaillée et chiffrée des coûts déjà engagés et à venir après la rupture du gigantesque contrat. Déclaration du patron du groupe industriel Pierre-Éric Pommelé dans le Figaro. Ce matin.
Merci Romain Oquet pour ce journal.
Il est 6h07, on passe au sport. Le journal des sports de Martin Lange et une pluie de buts hier soir en Ligue 1.
Oui, on commence par la bonne nouvelle. Le championnat de France nous offre du spectacle en ce début de saison. Pas moins de 32 buts inscrits hier soir. Parmi les résultats marquants, Rennes a étrié Clermont 6-0. Match nul spectaculaire entre Montpellier et Bordeaux, 3 partout. Et puis Lyon qui reprend sa marche en avant en victoire 3-1 contre 3. De son côté, le PSG a encore eu chaud. Nouvelle victoire arrachée dans le temps additionnel. Après Lyon ce week-end, c'est la lanterne rouge, Metz, qui en a fait les frais. Victoire 2-1 des Parisiens grâce à un doublé de la recrue Achraf Hakimi. Malgré les difficultés dans le jeu, Mauricio Pochettino, le coach parisien, voulait saluer l'état d'esprit de ses joueurs.
On voit que l'équipe se bat jusqu'au bout. Elle a cette capacité à se surpasser. Je suis content de ça. L'équipe a montré du caractère. Un des objectifs désormais est de maintenir ce niveau et ce rythme pendant toute la partie.
L'entraîneur du PSG au micro de Cyril de la Morinerie. Au classement, Paris continue son sans-faute. 7 matchs, 7 victoires et déjà 7 points d'avance sur son dauphin Marseille.
L'OM qui a offert un spectacle beaucoup moins réjouissant en tribune.
Oui, après son match nul et vierge à Angers hier soir, des supporters marseillais ont envahi la pelouse du stade Raymond Coppa pour en découdre avec leurs homologues angevins. Vous entendez le speaker du stade qui tente de calmer les ultras. En un mois, c'est déjà la troisième fois que des supporters entrent sur un terrain. Une triste habitude. La commission de discipline devrait se saisir du dossier dans les jours à venir. Débordement toujours cette fois à Montpellier. Le quart des Girondins de Bordeaux a été caillassé sur le chemin du stade, faisant 16 blessés légers. Le club a annoncé porter plainte contre X.
Pour finir, Martin, deux rendez-vous aujourd'hui.
Oui, du handball avec la deuxième journée de la Ligue des Champions. Le PSG reçoit le Dynamo Bucarest. Et puis du canoë kayak avec les championnats du monde de slalom qui débutent en Slovaquie. Le français Denis Gargaud, champion olympique à Rio, vise l'or en canoë monoplace.
Merci, c'était le journal des sports de Martin Lange.
6h09 sur Europe 1, vous restez avec nous. On va s'intéresser à l'impact de la crise sanitaire sur les rémunérations des cadres. Et comme souvent, ce sont vous, mesdames, les grandes perdantes. On en parle dans un instant avec le directeur général de la PEC. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h11 sur Europe 1, bienvenue à vous. On va maintenant s'intéresser au salaire des cadres. Quel a été l'impact de la crise sur leur rémunération? Eh bien, on en parle, Julien, avec Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres.
Bonjour Gilles Gâteau.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous avez analysé dans le détail les rémunérations des quelques 5 millions de cadres en France. Et si leur salaire a été préservé l'année dernière malgré la crise, on va y revenir. Le gros point noir, c'est que les inégalités entre les femmes et les hommes se sont accrues.
Oui, absolument. Entre les hommes et les femmes cadres, il y avait un mouvement de réduction d'un écart qui est important, qui est de l'ordre de 15%, qui avait baissé l'an dernier, en 2019, qui était de 13%. Et puis en 2020, à nouveau, il a réaugmenté cet écart. Ça veut dire que pendant cette crise, pendant cette pandémie, où les salaires des cadres globalement ont stagné, eh bien, on a un peu abandonné l'ambition, l'objectif de réduire les écarts entre hommes et femmes du point de vue des salaires chez les cadres.
Comment vous expliquez que l'écart salarial se soit accru l'année dernière ?
On le redoutait un peu parce que, clairement, en 2020, il y a eu moins de marge de manœuvre salariale, comme on pourrait dire, du fait de la crise. Donc les augmentations ont été moins nombreuses. Elles n'ont concerné principalement que les cadres qui ont changé d'entreprise, changé d'emploi, et les secteurs qui sont les plus en tension, les emplois dans l'informatique, dans l'ingénierie, qui sont des emplois davantage masculins. Et il y a eu moins d'augmentation générale de l'ensemble des cadres dans les entreprises qui pouvaient concerner hommes et femmes, et d'efforts particuliers dans le rattrapage salarial pour les femmes cadres, qui est pourtant une nécessité.
Donc, pour faire simple, il y a eu plus d'hommes cadres qui ont été augmentés que de femmes.
Oui, absolument.
C'est d'autant plus notable que les années précédentes, la part des cadres augmentés était similaire entre les deux sexes.
Oui, et les augmentations moyennes des femmes cadres étaient plus importantes parce qu'il y avait ce rattrapage qui commençait. Mais tout ça est très très lent, beaucoup trop lent. Si l'on fait abstraction des différences de formation, de diplôme ou de poste, qu'on regarde vraiment de façon très fine à poste identique, à âge identique, à ancienneté identique, il reste un écart salarial inexpliqué par ces facteurs qui est de l'ordre de 8%. Et cet écart de 8%, donc c'était 7% l'an dernier, il a légèrement augmenté en 2020, mais globalement sur la longue période, on va dire depuis 10 ans, il reste pratiquement stable autour de 8%. Et ça, c'est vraiment un problème parce que ça veut dire que cette prise de conscience de la nécessité d'une égalité salariale entre hommes et femmes, les lois qui se sont succédées pour tendre vers cet objectif ne sont pas suffisamment traduites dans les faits.
Je précise que le salaire médian des femmes cadres était l'année passée de 46 000 euros, soit 7 000 de moins que les hommes. Pour en revenir aux augmentations, est-ce qu'il y a eu un effet télétravail ? Parce qu'on apprend dans votre étude que davantage de femmes cadres y ont eu recours de manière intensive.
Année 2020 très particulière avec ces périodes de confinement. Et on est allé regarder très finement jusque dans des choses qui peuvent paraître anecdotiques. Par exemple, lorsque au domicile, il y avait un bureau, qui occupait ce bureau ? Plutôt l'homme, plutôt la femme. Et hélas, sans surprise, c'est plus souvent les hommes que les femmes qui occupaient le bureau. Les femmes se rabattaient sur le salon ou la cuisine. Donc, on voit que tout ça vient se nicher dans des détails parfois très révélateurs. Et puis, il y a la question des enfants, la prise en charge des enfants pendant ces périodes de confinement qui ont mobilisé beaucoup plus les femmes que les hommes. Et sans doute, en effet, on retrouve aussi du côté des employeurs, et c'est sans doute un réflexe qu'il faut combattre, l'idée que les femmes ont peut-être été moins disponibles au travail professionnel que les hommes dans cette période.
Pour conclure, Gilles Gâteau, comme je le disais en introduction, les cadres, tous sexes confondus, ont vu leur salaire préservé l'année passée, et ce, malgré la crise. Est-ce que c'est une surprise pour vous ?
Alors, c'est pas forcément une surprise que, globalement, il se soit maintenu. Ce qui est plus une surprise, c'est que la part variable des rémunérations, vous savez que chez les cadres, la particularité, c'est qu'il y a une part variable qui parfois peut être assez significative dans la rémunération, qui dépend des résultats de l'entreprise. On s'attendait à ce que cette part variable soit quand même un peu massacrée, on va dire les choses, pendant la crise de 2020. Eh bien, on voit que les entreprises les ont plutôt préservées, ces parts variables. Alors parfois, c'était une obligation légale parce que l'intéressement se calcule sur les résultats de l'année précédente, donc les résultats de 2019, évidemment, qui étaient très bons. Peut-être qu'en 2021, il y aura moins d'intéressement de participation, donc c'est un effet décalé. Mais sur les autres formes de variables, ce qu'on appelle les bonus, on s'attendait effectivement à un mouvement de contraction et globalement, on voit que les entreprises n'ont pas voulu sanctionner, on va dire, la rémunération variable des cadres l'année dernière.
Merci beaucoup, Gilles Gâteau, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'APEC. Bonne journée et à bientôt.
Merci beaucoup à vous.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 6h19, c'est le journal permanent, les principaux titres de l'actualité avec Alban Le Prince.
Simple comme un coup de fil, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont appelés hier une semaine après le début de la crise des sous-marins. Objectif, rétablir la confiance. Pour ça, les deux présidents annoncent le lancement d'un processus de consultation approfondie. Xavier Bertrand, le mieux placé pour la présidentielle selon les sympathisants de la droite, résultat d'une enquête commandée par les Républicains. Hier, Nicolas Sarkozy a semblé penché en faveur du président de la région Hauts-de-France. Zemmour porte plainte contre Paris Match en cause. La une du jour, des photos volées du polémiste très proche de sa conseillère pendant une baignade après une séance de dédicace. L'éducation nationale en grève, aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale au lendemain de la présentation du budget 2022. L'intersyndicale qui réclame un plan d'urgence pour l'école. Elle réclame de meilleurs salaires mais aussi une amélioration des conditions de travail.
On en vient à votre partition, Omblin, partition qui s'intéresse ce matin à l'un des plus grands guitaristes de tous les temps. Nous sommes le 23 septembre 1970, quand Carlos Santana présente l'album destiné à devenir un classique, Abraxas.
Une sortie, Julien, survenue un an après l'événement qui l'a propulsé avec son groupe sur le devant de la scène rock internationale en août 1969. Après avoir fait vibrer pendant 45 minutes le chant de Bethel à Woodstock, Santana change soudainement de dimension et passe de quasi inconnu à superstar, un statut avec son lot de gloire et de dérives.
Le manager de Santana à l'époque est un certain Bill Graham.
Grand Manitou du rock'n'roll aux États-Unis dans les années 60, producteur et organisateur de concerts, il a fait tourner les Rolling Stones, Led Zeppelin. Santana, ce sont ses poulains. Et Bill Graham les prévient, le succès ne doit pas leur monter à la tête. Mais ils sont jeunes, fougueux, enivrés par tant de succès, les musiciens passent plus de temps avec des groupies à user et abuser de différentes substances qu'en studio.
Finalement, Carlos Santana et ses compagnons retrouvent la raison et leur sérieux. Ils promettent même que le nouvel album sera bien meilleur que le précédent.
Il faut rappeler qu'ils n'ont pour l'instant qu'un seul disque à leur actif. Santana entre en studio à San Francisco en avril 1970. Les sessions vont s'avérer être particulièrement éprouvantes.
À peine débutées, ces sessions d'enregistrement sont inexorablement interrompues par des disputes.
Certains titres sont au centre de ces conflits. Malgré le profond désaccord du reste du groupe, Carlos Santana impose Oye Como Va et l'instrumental Samba Pati qu'on entend. Il va jusqu'à les menacer de claquer la porte, un tour de force qui lui donnera raison puisque ce sont devenus deux grands classiques. Un tel niveau de tension épuise moralement le guitariste. Il dira plus tard, il m'arrivait souvent de pleurer, mes amis, ceux avec qui j'avais grandi, étaient devenus des étrangers pour moi.
Abraxas naît donc dans la douleur mais fait entrer le groupe dans la légende.
Le disque est court, 37 minutes seulement, 9 pistes en tout, dont cette reprise de Fleetwood Mac composée par le guitariste Peter Green. Pour Black Magic Woman, c'est le chanteur et organiste de Santana, Greg Rolie, qui s'est battu pour que le groupe l'interprète. Il a bien fait de tenir bon. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Thank you. Black Magic Woman, la version de Santana, extrait de l'album fondateur du style rock latino, l'album Abraxas, sorti il y a 51 ans, le 23 septembre 1970. Et notez bien, Carlos Santana sera de retour avec son nouvel album Blessings and Miracles le 15 octobre.
Merci beaucoup, Omblin. Vous restez avec nous dans un instant. Dimitri Pavlenko va nous donner le programme de votre matinale jusqu'à 9h. À tout de suite.